This is Radio France International.
De Paris, RFI,
$100.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Et ce soir, c'est avec Judith Zheng de la rédaction chinoise. Vous nous parlerez de l'exposition exceptionnelle de porcelaine monochrome chinoise au musée Guimet à Paris. Pour la rédaction brésilien Lucia Mouzel.
Bonne nuit.
Il sera question de la polémique autour du projet de loi qui durcit le droit à l'avortement au Brésil à la demande des ultra-conservateurs. Evaïd Chamsodincha de la rédaction persan.
Drood.
Avec vous, nous nous intéresserons au pourparlers de Doha, auquel vont participer les talibans. Dans l'immédiat, gros plan sur les réactions dans le monde provoquées par l'annonce surprise de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président français, car bien évidemment, la crise politique suscite beaucoup d'intérêt, où que ce soit. Alors le Brésil, tout d'abord, Lucia, l'annonce de la dissolution et par voie de conséquence l'organisation d'élections législatives anticipées a provoqué la surprise, mais également de l'espoir pour certains.
Et oui, l'extrême droite brésilienne attend avec impatience ces élections législatives ici en France, en espérant de voir le candidat du RN, Jordan Bardella, les rapporter. Car une victoire du parti d'extrême droite dans un grand pays européen comme la France serait non seulement quelque chose d'inédit, mais aussi serait perçu comme un important souffle ultra-conservateur dans le monde. Bon, le Brésil, il est majoritairement influencé par la politique américaine. Donc, la possibilité de victoire de Donald Trump aux États-Unis en novembre est attendue avec beaucoup plus d'enthousiasme de ses partisans de ce courant politique. Mais si ce tournant a lieu en France, un pays dont l'image est toujours perçue comme étant plutôt de gauche, il s'agira donc d'un pas majeur pour cette cause, disons, de ces électeurs-là. Par ailleurs, on se rappelle à quel point l'ancien président d'extrême droite au Brésil, Jair Bolsonaro et Emmanuel Macron, ne s'appréciaient pas du tout entre eux. Alors, voir M. Macron malmené, déstabilisé, comme c'est le cas aujourd'hui, leur fait sans doute plaisir.
Et puis après le choc, cette semaine, c'est l'appel des athlètes français contre l'extrême droite, notamment le footballeur Kylian Mbappé, qui a attiré l'attention au Brésil.
Oui, je vous rappelle que l'ancienne star du PSG, Mbappé, a appelé les Français, et particulièrement les jeunes, à aller voter contre les extrêmes, tandis qu'une tribune signée par des nombreux sportifs et sportives appelle au vote contre le Rassemblement national spécifiquement. Cet engagement politique des athlètes attire donc l'attention des Brésiliens, peut-être parce que là-bas aussi, la polarisation politique a atteint les terrains de football, le sport national. Du coup, le début de la campagne électorale ici a moins intéressé à nos auditeurs que cette prise de position de Mbappé et ses collègues. Je remarque aussi que, contrairement à l'extrême droite avec le RN français, la gauche brésilienne n'est pas particulièrement enthousiaste de la formation du nouveau Front populaire. On n'en parle pas beaucoup et dans la presse en général, on focalise beaucoup plus sur l'affrontement entre Macron et le RN quand on parle de ces élections à venir.
Donc premier tour le 30 juin. Vaïd, comment est-ce que ce cataclysme politique en France est perçu en Iran?
Actuellement, l'Iran se prépare pour l'élection présidentielle anticipée suite à la mort le 19 mai du président Ibrahim Raisi dans le crash de son hélicoptère. Les élections sont prévues pour le 28 juin. Les candidats sélectionnés par le Conseil des gardiens de la Constitution sont en campagne. Une grande partie de la population semble hésitante quant à sa participation, tandis que les autorités souhaitent un taux de participation élevé après une présidentielle en 2021 et des législatives en mars dernier marquées par un taux d'abstention record. Tous les yeux sont donc rivés sur ces élections et le pays ne prête guère attention aux événements extérieurs.
Et les réactions en Chine maintenant, Judith, comment cette dissolution et ces élections anticipées sont commentées à Pékin et ailleurs bien sûr dans le pays?
Oui, le mot qui revient le plus souvent dans la presse chinoise, ou en tout cas du monde chinois, sur ces élections anticipées, justement, c'est aussi le pari à haut risque. Alors, une analyse du site d'information à Hong Kong, qui le nom est Hong Kong 01, a mis en parallèle le choix de Macron et le référendum pour le Brexit en 2016 au Royaume-Uni, pour bien souligner le séisme et les conséquences que ceci pourrait engendrer. Hu Xixin, qui est un éditorialiste très connu du tabloïd nationaliste chinois Global Times, Lui, il considère que si Macron perd son pari et que le Rassemblement national arrive au pouvoir, ce serait un marqueur historique d'une Europe tournée désormais vers l'extrême droite. Et pour lui, si c'est le cas, ce serait de cracher sur l'idéal des Jeux olympiques pour une communauté humaine unie et solidaire.
Voyons maintenant les conséquences diplomatiques de ce qui se passe politiquement en France. Bailly, tout d'abord, dans ce contexte, il y a des tensions, je veux le rappeler, entre Paris et Téhéran.
En effet, les relations entre Paris et Téhéran se sont encore détériorées récemment à cause de la détention prolongée de ressortissants français en Iran. Les relations se sont encore envenimées après l'arrestation le 4 juin d'un citoyen iranien par la police française. Cet homme, Bachir Biazar, est un ancien haut responsable de la télévision d'État iranienne. Considéré par la France comme un agent d'influence en lien avec les services de renseignement de la République islamique, il a été placé en centre de rétention administratif en attendant son expulsion du territoire français. Sa détention administrative a été prolongée hier de 28 jours. Beaucoup estiment que cette prolongation sans inculpation est liée au sort des trois Français toujours détenus en Iran, que le Quai d'Orsay qualifie de victimes de la politique d'otage d'État pratiquée par Téhéran.
Judith, les Chinois se préoccupent aussi de l'impact de ces élections sur les relations avec leur pays.
Tout à fait. Pour les commentateurs qui sont en Chine, certains pensent que si l'extrême droite arrive au pouvoir, ça pourrait faciliter les relations entre la France et la Chine, car pour eux, ces partis d'extrême droite accordent moins d'importance aux valeurs et qu'ils sont plus pragmatiques. Mais c'est justement ce qui inquiète des observateurs sinophones en dehors de la Chine, car ils considèrent que non seulement ces partis de l'extrême droite ont un penchant pro-russe, mais aussi ils se montrent plus complaisants vis-à-vis du gouvernement chinois.
On aura bien évidemment l'occasion de reparler de ce qui passe en France avec ses répercussions dans le monde entier. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
20
Accent du monde. Philippe Le Caplin.
Dans un peu plus d'une semaine, à Doha, il sera question de l'avenir de l'Afghanistan et pour la première fois, les talibans vont participer aux échanges. Vahid Shamsuddin-Nezad, c'est le troisième cycle de pourparlers sur l'Afghanistan organisé par les Nations Unies, donc au Qatar.
En février, des émissaires pour l'Afghanistan s'étaient réunis à Doha pour discuter du renforcement de l'engagement de la communauté internationale en Afghanistan. À cette occasion, des représentants de la société civile afghane, y compris des femmes, étaient également présents. Cependant, le gouvernement taliban, exclu de la première réunion à Doha en mai 2023, avait refusé de participer en février, à moins que ses membres ne soient les seuls représentants du pays.
Alors, qu'est-ce qui a changé pour que les dirigeants talibans acceptent maintenant de participer à cette conférence?
Zabihullah Mujahid, porte-parole du gouvernement taliban, a précisé que l'ordre du jour inclut des sujets comme l'aide à l'Afghanistan et la création d'opportunités pour les investisseurs dans le pays. Il a ainsi écarté tout dialogue concernant un gouvernement inclusif ou les conditions désastreuses des femmes qui sont depuis plus de 2 ans privées de presque toute activité sociale. L'Afghanistan est en effet le seul pays au monde où l'éducation des filles est interdite après l'école primaire. Écoutons Sohail Shahin, porte-parole du chef du bureau politique des talibans à Doha, qui a été interrogé par notre confrère Vincent Sorio sur la question de l'éducation des femmes.
L'éducation, la femme, l'éducation est un issue.
Alors, qu'a dit ce taliban sur RFI?
Il affirme que l'éducation des femmes est une question que les autorités talibanes veulent réexaminer, mais à leur manière et selon les valeurs et traditions de la société afghane. Il fait référence à une interprétation ultra rigoriste de l'islam, multipliant les mesures liberticides à l'encontre des femmes, une politique qualifiée d'apartheid de genre par l'ONU.
Alors, les autorités talibanes, qui n'ont été officiellement reconnues par aucun pays, ne font aucune concession en matière de droits des femmes.
Et des sources diplomatiques ont confirmé à l'AFP qu'une consultation des groupes de la société civile est cette fois prévue avant et après le troisième cycle de pourparlers, mais pas dans les réunions avec les autorités talibanes. Cela a été une des conditions sine qua non des talibans pour participer à ces pourparlers. Ils voulaient être les seuls représentants du pays lors des négociations. Écoutons à ce sujet Shabnam Salashour, militante afghane des droits de femmes.
Afghanistan
Vaïd, que dit-elle ?
Elle estime que la crainte des talibans d'une participation de représentants de la société civile afghane est en quelque sorte justifiée, car selon elle, si leur gouvernement n'a pas été reconnu jusqu'à présent, c'est justement grâce à l'activisme de cette société civile, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, qui porte notamment la voix des femmes réprimées depuis le retour des fondamentalistes au pouvoir. Elle dénonce également l'attitude de la communauté internationale vis-à-vis des talibans et demande à ce qu'elle se tienne aux côtés des femmes afghanes. Plusieurs groupes de la société civile afghane ont également pressé cette semaine l'ONU de donner la priorité au sujet concernant les droits des femmes.
Encore une question, que peut-on attendre de ces pourparlers qui auront lieu à Doha ?
Rappelons que Doha a aussi accueilli les négociations entre les États-Unis et les représentants des talibans, ce qui a conduit au retrait des Américains d'Afghanistan et aux scènes de chaos qui ont suivi à l'aéroport de Kaboul, où des millions d'Afghans ont tenté de quitter le pays. Ces nouvelles réunions dans la capitale qatarie pourraient porter sur des sujets économiques et financiers, ainsi que sur les efforts de lutte contre le trafic de stupéfiants. En attendant de changements dans le pays, de nombreux gouvernements et organisations humanitaires ont suspendu ou réduit leur financement dans ce pays où la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté et où 15 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire selon la Banque mondiale.
C'était Vaïd Shamsodichad de la rédaction en persan. Au Brésil, ce sont des milliers de personnes qui ont manifesté cette semaine dans les grandes villes, cela contre les menaces qui pèsent sur le droit à l'avortement. Lucia Mouzel, qu'y a-t-il dans ce projet de loi très controversé alors que la législation est déjà restrictive ?
Tout à fait. Ce projet de loi, porté par un groupe de parlementaires ultra-conservateurs, veut criminaliser la femme enceinte suite à un viol si elle décide d'avorter après 22 semaines de grossesse. Ce droit, il est garanti depuis 1940 au Brésil, mais ces députés veulent pénaliser les femmes en leur imposant des peines deux fois plus lourdes que celles appliquées aux violeurs, c'est-à-dire jusqu'à 20 ans de prison par homicide. Les Brésiliennes ont refusé ce recul qui risque de mettre le Brésil à côté des pays très stricts comme l'Afghanistan justement et l'Indonésie en termes d'interruption volontaire de grossesse. Nous avons vu des manifestations monstres dans les rues, les réseaux sociaux, renforcées par la prise de position de célébrités, ce qui a contraint le président de la Chambre des députés à repousser le vote en séance plénière de ce projet de loi. Le texte avait passé en régime d'urgence il y a une dizaine de jours sans aucune discussion en commission.
Alors, ce projet a mis à mal le gouvernement de gauche. Est-ce que le président Lula s'est exprimé là-dessus ?
Il a mis des jours à le faire car le sujet reste très sensible au Brésil. D'ailleurs, on n'a jamais eu un président ouvertement favorable à l'IVG car ce serait se tirer une balle dans les pieds politiquement là-bas. Finalement, le président Lula a publié un texte dans lequel il dit que lui, Luiz Inácio, son prénom, est personnellement contre l'avortement mais trouve inacceptable que la femme soit pénalisée davantage que son violeur. Autour de lui, différents ministres ont fait savoir que le gouvernement ferait ce qu'il peut pour empêcher l'approbation du texte dont le vote pourra avoir lieu d'ici la fin de cette année. Je vous signale qu'on a en fait au Brésil des élections municipales en octobre, le premier test aux urnes pour le gouvernement Lula. Et ce contexte préélectoral est important pour comprendre ce mouvement des conservateurs contre l'avortement, nous rappelle la juriste Soraya Mendes, interviewée par notre correspondante à Brasilia, Raquel Miura. Écoutons un extrait.
Utilizar a temática do aborto em períodos eleitorais sempre foi uma praxe, muito especialmente quando as adversárias.
Quelle est son analyse?
Elle dit que l'utilisation du thème de l'avortement est récurrente avant les élections, surtout quand il y a une forte présence féminine parmi les candidats, et c'est le cas maintenant. Et malgré la présidence de gauche, le Congrès brésilien est très fortement dominé par les conservateurs qui, depuis longtemps d'ailleurs, s'attaquent aux droits des femmes.
Alors, malgré toute cette polémique, davantage de députés se sont ralliés au projet de loi, ce qui montre finalement à quel point la société brésilienne est clivée.
En effet, 25 députés supplémentaires d'extrême droite se sont dit qu'il était une bonne idée de se montrer favorable à l'endurcissement de l'accès de l'IVG. Parmi les 56 signataires, il n'y a que 8 femmes députées et une majorité d'anciens militaires ou policiers qui sont rentrés en politique, ainsi que des pasteurs évangéliques. C'est pour cette raison d'ailleurs que le texte est juste ajourné, il n'est pas abandonné. Un sondage a montré cette semaine que 29% des Brésiliens sont d'accord avec la proposition de loi et 66 sont contre. Par ailleurs, de plus en plus de médecins entravent la pratique de l'avortement légal mondiale. C'est le cas à São Paulo, où les hôpitaux viennent d'être rappelés à l'ordre par le président de la Cour suprême. Cela fait suite à une résolution illégale émise par l'Ordre fédéral des médecins, interdisant une pratique médicale spécifique pour la réalisation d'un IVG. Écoutons donc le médecin spécialiste de la santé publique, Fabiana Pinto, au micro de notre correspondante au Brésil.
Os fundamentos dessa resolução passaram a ser utilizados para perseguir médicas e médicos que estivessem realizando esse procedimento de forma legal.
Que diz esse médecin?
Ela raconte que cette résolution est désormais utilisée pour pointer du doigt les médecins qui pratiquent l'avortement au-delà de 22 semaines de grossesse, même si la loi actuelle n'impose aucune limite de temps quand il s'agit d'un viol. Fabiana Pinto juge très grave que l'ordre des médecins se mette à défendre la pénalisation des femmes, mais même des jeunes filles, très souvent, qui cherchent à faire un IVG en toute sécurité et légalité.
C'était Lucia Mouzel de la rédaction brésilienne de RFI. L'excellence chinoise dans l'art de la porcelaine est connue dans le monde entier et elle est exposée, cette excellence, aux yeux de tous en ce moment à Paris. C'est au musée Guimet et vous vous y êtes rendu pour la rédaction chinoise de RFI, Judy Jiang.
Oui, tout à fait. Ce qui est exceptionnel dans cette exposition, c'est d'abord visuel, car elle a rassemblé à peu près 300 objets, surtout de vaisselle, en porcelaine, mais monochrome, c'est-à-dire qui portent une seule couleur. Mais il faut vraiment aller voir de ses propres yeux pour se rendre compte de l'arc-en-ciel que ces objets monochromes pourraient former et de la perfection recherchée. Une des deux commissaires de cette exposition, Madame Claire Delery, qui est aussi la conservatrice en charge des céramiques chinoises au musée Guimet, nous a expliqué que ce sont vraiment des porcelaines monochromes les plus emblématiques des collections qui y sont présentées. Alors je vous propose de l'écouter.
La spécificité de la porcelaine monochrome, en réalité, elle est multiple. Elle a évolué au cours du temps, puisque cette exposition se place entre le 8e et le 18e siècle, donc c'est plus de 1000 ans. Donc en réalité, la symbolique des porcelaines monochromes, elle a évolué au cours de ce temps. Mais l'art le plus important de la porcelaine monochrome, il se situe au niveau des dynasties Ming et Qing, qui sont les pièces présentées majoritairement dans cette exposition.
Alors qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel dans cette porcelaine monochrome, Judith ?
Oui, parce que ce sont en fait surtout des objets exposés sont tous des deux dernières dynasties chinoises, c'est-à-dire du 14e au 18e siècle. C'est la période où l'art de la porcelaine a atteint son apogée en Chine. Alors ensuite, les objets exposés sont principalement des vaisselles liées à des rituels de la cour impériale. Alors ce qui veut dire qu'elles se doivent être parfaites. Claire Delery explique que c'est cette attente de l'excellence qui oblige les fours à porcelaine et surtout ceux qui sont sous ordre de la cour à rechercher toujours la perfection, à fabriquer des pièces parfaites, aux couleurs homogènes et surtout sans aucun défaut, car tout défaut serait visible.
Alors le musée Guimet est un des plus grands musées du monde des arts asiatiques et les pièces qui sont exposées font partie de sa très riche collection des céramiques chinoises.
Oui et non pour cette exposition, ce qui permet de qualifier cette exposition exceptionnel, c'est aussi parce que la majeure partie des objets exposés proviennent de Hong Kong, plus précisément d'un collectionneur hongkongais, son nom est Richard Kan. Près de 250 pièces exposées parmi les 300 viennent de sa propre collection. Alors Richard Kan, qui est venu à Paris pour le vernissage, il nous a expliqué pourquoi il s'est focalisé sur les porcelaines monochromes. On l'écoute.
I have always been interested in simple things. I don't like complicated.
Aidez-nous à comprendre, Judith.
Alors, Richard Kan dit que c'est parce qu'il aime les choses simples. Pour lui, la beauté est aussi dans la simplicité. Et ce qui le fascine dans la porcelaine monochrome, c'est aussi la perfection, la pureté, car la moindre défaut vous saute aux yeux. Alors je pense que les deux intitulés de cette exposition en français et en chinois résument chacun à sa manière les clés de cette exposition. En français, c'est au cœur de la couleur qui souligne cette recherche de la perfection à travers la couleur. En chinois, tian su wei xuan, qui veut dire en gros la beauté est dans la simplicité.
Et c'est donc à admirer au musée Guimet. C'était Action du Monde sur Radio France Internationale.